Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver comme chaque week-end pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. Pendant cette prochaine heure, je vous propose qu'on réécoute ensemble des extraits des temps forts de cette semaine. On commence d'ailleurs avec le Loft Music. Mercredi, Ivan Cujus recevait Flo de la Vega, venu présenter son premier album solo Rêveur Forever, sorti le 5 mars dernier. L'occasion pour le chanteur qui a tout quitté pour s'installer en plein cœur de la forêt des Landes de vous offrir un live inédit de son second single « Nous deux », un projet intime et personnel qui aborde les thèmes de l'amour et des voyages. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bonsoir Flo de la Vega, merci d'être là.
Bonsoir, merci de m'inviter.
Parce que cette démarche sur ton premier album est vraiment centrée sur ton histoire personnelle et sur ce rendez-vous que tu t'es donné avec toi-même, c'est-à-dire cette rencontre qui passe par un éloignement à un moment donné, une espèce de coupure avec le monde de la musique et le monde de la ville, pour te recentrer et partir. Alors dans un endroit extrêmement lointain, et pas tant que ça, puisqu'on est dans le nord des Landes, dans les Hautes-Landes.
Exactement, les Hautes-Landes.
Pas très loin de Bordeaux.
Pas très loin de Bordeaux, à une heure de Bordeaux, pas loin de la côte non plus, une petite heure, dans un petit village qui s'appelle Sabre. Ouais. Et plus précisément, en plein milieu de la forêt, là où je me suis retiré, effectivement, il y a 4 ans. Avec ma compagne, ma chérie Natalia Doko.
Oui, et qui est sur l'album, évidemment.
Qui est sur l'album, qui m'accompagne déjà depuis bientôt 10 ans. Et puis on a eu un petit enfant aussi. Et puis des chansons, et puis des rêves qui se sont construits. Certains sont nés là, d'autres se sont concrétisés dans ce lieu. Et effectivement, une retraite un peu introspective. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai entrepris. Vraiment, je voulais me poser plein de questions sur moi, sur ma vie. Surtout, je voulais les réponses. Je ne les ai pas toutes eues, mais j'ai fait le tour de la question, en tout cas, de qui je suis et qui je veux devenir.
Flo de la Vega, on va écouter d'abord la prod de cet album que tu dois notamment à Thierry Decara, qui est là, qui est ton manager, qu'on aime beaucoup dans le Loft et qui est toujours le bienvenu ici. Il nous dira un petit mot tout à l'heure, mon Thierry. On va écouter cette prod et puis on va te retrouver en live, juste comme cette guitare-voix dans Nous deux, sur l'album de Flo de la Vega. Je le disais, il y a beaucoup de demain, il y a même jusqu'à demain.
Des rêves encore jusqu'à demain, des rêves encore bien plus loin, des rêves encore d'ici d'ailleurs, des rêves encore de jours meilleurs jusqu'à demain.
Il y a aussi un peu d'Espagne qui n'est pas si loin que ça des Hautes-Landes. Et puis il y a Rêveur Forever, un titre coécrit avec Ben Mazieu, si je m'abuse.
Il est inutile mon voyage, souvent je me perds, souvent je me perds, souvent je me perds. Il est inutile mon voyage, souvent je me perds, souvent je me perds, souvent je me perds.
Il y a également, ça aurait pu être souvenir, retour vers le futur, mais là c'est souvenir de demain.
Je rêve si fort, souvent je vois demain, et là tu sais je m'imagine des heures et vents au fond de mon jardin, où j'écrirai ces quelques lignes. Je rêve si fort, souvent je vois demain, et là tu sais je m'imagine des rêves encore, souvenirs de demain, cet écrit là dans nos lignes.
Et puis il y a peut-être finalement la réponse.
La clé du mystère du monde des rêves, trouver la clé du mystère du monde des rêves, trouver la clé du mystère du monde des rêves, trouver la clé du mystère.
Et puis on ferme la porte, on cierra la puerta.
Oye mi canto entero, mi canto entero.
Le Le nouvel album, le premier album de Flo de la Vega. C'est marrant, quand on te parle, on a l'impression qu'on parle du 2-3e, et pourtant c'est vraiment réellement le premier. C'est assez paradoxal.
Le premier tout seul, effectivement.
Ouais, ouais. La clé du mystère, elle passe par le rêve écologique, finalement, qui est le tien, parce que tu as tout construit. Ton studio, là où vous avez bossé, c'est une cabane en bois.
Cabane plus quand même.
Oui, évidemment. Dire, hein. Mais bon, pour le public et pour l'histoire, on va dire que c'est que des arbres et des troncs d'arbres.
Exactement.
Mais en tout cas, tu as construit. C'est quoi pour toi ce rêve écologique dont tu parles?
Ça a été un rêve d'abord militant, d'abord fâché. J'étais un peu fâché à l'époque des frérots quand j'ai quitté toute cette aventure. J'étais un peu dans un constat du grand rêve de l'humanité qui me faisait pas rêver vraiment, et j'étais un peu fâché. Donc c'est vrai que je me suis plongé là-dedans, dans la permaculture, dans l'agroécologie, parce que je sentais qu'il y avait un monde alternatif comme ça qui se créait et qui était beaucoup plus inspirant. Et en tout cas, j'y ai mis tout mon cœur et toute mon énergie. Et après, il y a eu le retour d'expérience, parce qu'effectivement, être en tant qu'ermite dans une forêt et se dire, ben voilà, je vise l'autonomie. Donc on était autonome en électricité et en eau, ça allait, c'était cool. Et après, il fallait nourrir la famille. Et clairement, j'ai rencontré plein de contradictions, j'ai rencontré plein de conflits intérieurs. Quand j'allais acheter à manger dans un supermarché, je le vivais mal. Alors qu'il fallait nourrir mon fils, qu'il fallait nourrir...
Alors on parle de l'extrémiste que tu es.
Je suis allé très très loin. Effectivement, là, je suis allé très très loin dans ce rêve d'écologie. Je voulais, voilà, toilette sèche, phytoépuration, enfin, je suis allé jusqu'au bout.
Eh bien, si tu nous offrais, tiens, pour changer le monde, un live, nous deux, c'était le premier extrait s'appelait « Printemps éternel » de cet album. Et là, le deuxième single, c'est « Nous deux » que tu nous offres, guitare-voix. Mon cher Flo de la Vega, en live, dans le Loft Music sur Sud Radio ce soir.
Font qu'importe où je serai demain, il n'est qu'un seul rêve à mes yeux. Tant de destins et tellement de chemins, un seul instant est sous les cieux. Et puis qu'importe si tout s'efface au fond de moi, oui je le sais, tout est écrit au plus profond de l'éther. S'il est un monde où tout s'efface, il est en moi une vérité, tant de rêves où j'entends jouer cet air. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Bien au-delà de notre réalité, bien au-delà de tous nos repères, il est un cri dans l'immensité, il est un hymne autour de la terre. Et puis qu'importe si tout s'efface au fond de moi, oui je le sais, tout est écrit au plus profond de l'éther. S'il est un monde où tout s'efface, il est en moi une vérité, tant de rêves où j'entends jouer cet air. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux. Un peu de nous deux dans cet air, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Un peu de nous deux dans cet air, ouais. Un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux à la fois. Et un peu de nous deux dans cet air, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Un peu de nous deux dans cet air, un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux.
Youhou! sur Sud Radio, dans le Loft, en direct, Flo de la Vega.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Yvan Cujus et ses invités, rendez-vous de 20h à 21h dans le Loft Music avec des lives inédits. Restez sur Sud Radio, on revient dans un instant avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix et leur débat consacré à la présence des hommes politiques sur les nouveaux médias. Et avec l'invité de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibus, Philippe Courcuf, maître de conférence de sciences politiques. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. C'est un plaisir de vous accompagner comme tous les week-ends et de réécouter avec vous des extraits des émissions de la semaine. On continue d'ailleurs avec l'équipe des Vraies Voix. Mercredi, pendant leur traditionnel débat, Philippe Rossi et ses chroniqueurs Françoise Degois, Philippe David et Philippe Bilger et leur invité Jackie Isabello ont donné leur avis sur la présence de plus en plus d'hommes politiques sur les nouveaux médias comme Twitch, une présence qui divise sur les réseaux sociaux et entre nos chroniqueurs. Écoutez.
Là, pour l'instant, on n'a pas l'image. Hein.
Bonjour à tous mes amis pour ce troisième épisode de ce Facebook.
Ah, me voilà, ça y est. Bonjour.
Je vous lance un défi. Faites une vidéo. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Elysée.
On fait quand même cette rencontre Twitch parce que j'ai pas démarré Twitch pour ensuite disparaître.
Inès me demande quel film sympa j'ai vu. Pour ceux qui sont plutôt films d'action, Fast and Furious 8, ça dépote, comme on dit.
Tout le monde est crevé. Alors faites un effort. Je sais pas non plus la peine de me demander 10 fois comment ça va. Comment ça va, vous n'avez qu'à le voir. Ça va.
Et voilà, vous venez d'entendre donc sur toutes ces plateformes Emmanuel Macron, évidemment, vous avez reconnu Jean-Luc Mélenchon et puis Marine Le Pen, hein, Fast and Furious 8, ça dépote, vous l'avez entendu, hein, Marine Le Pen, on en débat donc ces politiques sur les plateformes, est-ce que eh bien, ça peut leur être favorable, est-ce qu'ils peuvent gagner de nouveaux électeurs, séduire, avoir une autre image, en tout cas essayez, 0826-300-300, on va vous écouter dans un instant. Le grand débat, c'est avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe David et notre invité, il nous a rejoint, c'est Jackie Isabello, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, Jackie Isabello, que vous connaissez, que vous retrouvez sur Sud Radio, fondateur de l'agence de communication Coriolink. Vous avez entendu, hein, mon cher Jackie, l'extrait de tous ces politiques sur les plateformes TikTok, hein, c'est le dernier en date, et puis Twitch, évidemment. Est-ce que c'est une erreur de communication d'y aller ou pas ? Est-ce que c'est une bonne chose ?
Moi, je suis surpris qu'on qualifie parfois ce genre d'exercice de gadgetisation, puisque le terme a été utilisé. L'homme politique a, si vous me permettez d'utiliser un terme marketing, il a une clientèle. Cette clientèle, c'est vous, c'est moi. Et il a des canaux pour faire passer son message, parce qu'il ne peut pas nous serrer la louche à 67 millions de Français. Et aujourd'hui,
surtout en période de Covid.
Vous le savez mieux que personne, eh bien, les jeunes désertent les formats classiques et traditionnels et s'investissent sur tout un tas d'autres plateformes. Donc que le politique s'intéresse à la situation des universités, mais s'intéresse également à la manière de toucher les jeunes, ça ne me semble pas être scandaleux, c'est même très professionnel. Après, on juge l'exercice. Quand Marine Le Pen est ridicule lors du deuxième tour, que ce soit sur TF1, France 2, sur une grande chaîne, ça va lui faire perdre des électeurs. Si jamais elles sont ridicules sur Twitch, sur TikTok ou sur tout autre canal, ça va être la même chose, mais il faut absolument y aller parce que vous le savez mieux que personne, ce sont des enjeux économiques extrêmement importants et les audiences se sont déportées énormément et notamment de la part des plus jeunes. Donc ce serait une erreur professionnelle de ne pas y accorder de l'attention. Et je le redis encore, expliquer que c'est de la gadgetisation de la vie politique et que le politique y perd son âme, moi, je trouve ça inquiétant pour la démocratie. Ouais.
Et puis, ils sont gagnants, ils sont double gagnants, j'ai envie de dire, ces politiques, parce que d'abord, ils sont très regardés sur, prenons Twitch, par exemple, et l'interview de François Hollande. Et puis, évidemment, les médias, et nous, les médias, on a passé des extraits de ces interviews. Donc, il y a les jeunes qui les écoutent sur les plateformes, et puis nous, sur les médias traditionnels. Vous parlez de la gadgetisation, Philippe Bilger. Pour vous, c'est de la gadgetisation, hein, Philippe ?
Je n'aurais pas utilisé ce terme, mais moi qui suis profondément conservateur, j'ai toujours considéré que l'élection du président au suffrage universel n'était pas incompatible avec une sorte de digne solitude présidentielle. Ça n'existe plus, et donc nous avons Les Visiteurs de l'Ombre, excellent livre de Renaud Revel, nous avons Les Gens d'Influence. J'ai vu récemment que maintenant on allait vers de jeunes influenceurs qui donnaient la vérité avancées en matière de mode, de cuisine et autre chose. Et apparemment, maintenant, c'est le règne des plateformes. Moi, Jackie Isabello, bien sûr, je ne me permettrai pas de contredire le technicien que vous êtes, mais je ne baptiserai pas ça de gadgetisation. Je trouve que c'est une profonde erreur de banaliser la démocratie en allant avec une démagogie ostensible draguer une partie de la jeunesse comme si en réalité la conviction ne résidait pas justement dans le naturel d'une démarche républicaine. C'est tellement ostensible, à mon sens, que ça peut apparaître totalement contre-productif. Mais ça, c'est peut-être le réactionnaire qui appose sur le réel un point de vue très dépréciatif.
Alors, avant de poursuivre le débat, petite parenthèse, vous pouvez suivre le direct de Sud Radio sur la plateforme Twitch. Et puis, Sud Radio est également sur TikTok. Voilà, vous pouvez vous abonner sur la plateforme TikTok. On y est. Si vous voulez savoir ce que fait Françoise de Goix pendant les pauses pub, par exemple.
Je fume.
Allez-y, ben voilà.
Sachez-le. Mais voilà. Ça se voit pas, mais je fume.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Rendez-vous dès lundi de 17h à 19h avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix, les chroniqueurs et leurs invités. On continue avec un extrait de la matinale de mercredi. Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient Philippe Corcuff, maître de conférences de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Lyon, venu présenter son livre « La grande confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées », une tendance qui, selon lui, participerait à un brouillage entre les frontières idéologiques de la gauche et de la droite. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bonjour Philippe Corcuff.
Bonjour.
La grande confusion, est-ce que ce n'est pas venu du mouvement des Gilets jaunes, justement, ce titre aussi un peu ?
Non, il était un peu, il est venu un peu antérieurement. Au début, j'avais un titre universitaire un peu compliqué. Et puis finalement, j'ai essayé de trouver une forme plus simplifiée qui dise les formes de troubles, de désarroi. Beaucoup de gens qui pensent que tout ça, ça se mélange. C'est un
ouais,
peu
c'est
confus
vrai. Non, mais c'est un peu ça. Voilà. C'est ça. Non, mais Philippe Corcuff, je dis ça volontairement parce que c'est vrai que dans le mouvement des Gilets jaunes, et vous l'analysez, vous le décortiquez complètement, eh bien, il y a eu une sorte de grande confusion. On ne savait pas si c'était un mouvement lié à la droite, l'extrême droite, lié à la gauche, l'extrême gauche, si c'était autre chose, un mouvement citoyen qui a été en fait évoqué. Et d'ailleurs, vous essayez de, avec du recul justement, d'analyser en fait tout ça.
Oui, parce que le mouvement des Gilets jaunes, il y a beaucoup de ceux qui ont été favorables. Et au tout début, les premières semaines, on peut dire que, en dehors de la majorité présidentielle, qui est en fait une minorité sur le plan électoral, de l'extrême droite jusqu'à la gauche la plus radicale, était favorable. Ouais. Et la plupart de la presse aussi était favorable, dans un premier temps.
Bon. Oui, enfin bon, ça c'était plus mitigé quand même. Hein.
Et après, c'est à partir des premières violences à Paris, au mois de décembre, qu'il y a eu un recul de certains, où la question des violences des manifestants est venue. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est que, contrairement à beaucoup d'intellectuels de gauche qui se sont exprimés publiquement, massivement à l'époque, pour... quelques-uns contre, très peu, en fait.
Ouais, ouais. D'autres qui se sont abstenus, quand même.
Voilà, et beaucoup qui se sont abstenus. Oui. Moi, je ne me suis pas exprimé tellement sur le moment, et j'ai essayé d'essayer de voir comment c'était un mouvement composite, comment un mouvement peut être soutenu par des anarchistes, des trotskistes, les Républicains, au début, jusqu'à décembre, et l'extrême droite, les Insoumis. Bon, qu'est-ce que c'est que ce mouvement ?
Ouais.
Et j'ai essayé de montrer qu'il y avait une demande de dignité qui s'exprimait par là, dans certains cas, une demande de plus grande démocratie, mais aussi des choses troubles.
Ouais.
La ressurgence, qui est un vieux fantasme français depuis 1830, de la figure de Rothschild,
ouais.
Hein, sur une grande manifestation de gilets jaunes à Bourges avec plusieurs milliers de personnes, la tribune où parlent la plupart des leaders, il y a quelque chose qui RF, République Rothschild, donc la ressurgence de l'antisémitisme. Bon, donc des choses composites.
Ouais. Avec le recul d'ailleurs, oui. Est-ce qu'il a été plus récupéré par un mouvement que par un autre politique?
Ils ont essayé de le récupérer tous, mais l'effet électoral aux européennes de 2019, c'est que, pas la majorité, hein, mais la plus grande part des gens qui ont participé à des mouvements de gilets jaunes, hein, c'est dans les sondages du jour du vote, donc c'est les plus crédibles, ces sondages-là, hein, ont plutôt voté pour le Rassemblement National.
Ouais.
Donc, électoralement, c'est plutôt le Rassemblement national qui a bénéficié. Et étrangement, les gens qui participaient au mouvement des Gilets jaunes et qui votaient peu avant, en fait, les Gilets jaunes se sont moins abstenus que les autres, ceux qui ont participé au mouvement. Donc ouais. Le mouvement a contribué à les politiser, à aller vers les urnes.
Positivement,
voilà,
quoi.
Positivement, voilà.
Bien sûr.
Pour résumer, est-ce que finalement, ce n'est pas une perte générale des repères politiques? C'est-à-dire que toutes les cartes sont brouillées et finalement, à force d'être déçu de président en président, aujourd'hui, ça remet tout en cause.
Oui, je pars de ce brouillard et de ce brouillage des repères. Et donc, j'essaye de le mettre en perspective historique. C'est-à-dire qu'on ne sait plus tellement. Il y a beaucoup de discours qui disent ni droite ni gauche. Il y a d'abord eu le discours d'extrême droite qui l'a dit depuis longtemps. Mais le discours écologiste aujourd'hui, d'une partie des écologistes, c'est aussi ni droite ni gauche. Le discours du président de la République, ça a été et droite et gauche ou ni droite ni gauche. Donc, ce clivage qui a commencé, disons, qui a émergé au cours de la Révolution française, simplement un problème de situation dans l'Assemblée, qui a mis du temps à s'inscrire comme le clivage principal tout au long du 19e, qui est devenu à partir du début du 20e siècle le clivage dominant en France, et puis, c'est une réussite française, le clivage dominant dans le monde, depuis le début du 21e siècle, c'est frite.
Oui.
Bon, pour lire la réalité. Et alors, il n'y a pas de forme aussi clair qui apparaît, et donc il y a des bricolages, des hybridations, des mélanges, des choses confuses, et puis des gens qui passent d'un bord à l'autre, d'un élément à l'autre, etc.
D'une idée à l'autre.
Voilà. Ouais. Et donc, on a du mal à s'y retrouver, ça c'est clair.
Mais jusque peut-être quand même les années 2000, globalement, le clivage était assez respecté, quoi. Hein, jusque 90-2000, non ? C'est-à-dire qu'on avait un bloc de droite assez classique et un bloc de gauche plutôt aussi classique, quoi. L'alliance PSPC, enfin je caricature un peu, mais c'est un peu ça.
C'est le milieu des années 2000 et le sarkozysme qui joue un rôle d'élément. Parce que le sarkozysme va emprunter des thèmes à la gauche, la lettre de Guy Mauquet, etc. Il va aller chercher des ministres de gauche aussi, des gens qui...
Kouchner, etc.
Voilà. Il va y avoir des mélanges. Avant, c'est stable, mais ça se détruit de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a deux pôles, le pôle communiste et le pôle socialiste. Le pôle communiste était en voie de marginalisation parce que tout le monde avait acté de l'horreur qu'a été le stalinisme. Et peu à peu, il y avait une usure du pouvoir du camp socialiste, notamment parce que finalement, au niveau socio-économique, il a fait des politiques assez proches de la droite. Et donc, sa crédibilisation perdait peu à peu. Et donc, on arrive, disons, au milieu des années 2000, avec cet élément d'effritement, mais les choses étaient déjà creusées dans l'effondrement du pôle socialiste ou social-démocrate et du pôle communiste, qui étaient les deux pôles principaux.
Oui.
Et ce qu'on a appelé la gauche radicale qui émerge à la fin des années 90, n'arrive pas, en fait, le mouvement altermondialiste, etc., n'arrive pas à remplacer.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Pat Roger, Cécile de Minibus et leurs invités, rendez-vous lundi de 7h à 10h. Et ne bougez surtout pas, on revient dans quelques minutes avec André Bercoff et son invité, le maire de Béziers, Robert Ménard. Restez sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Merci pour votre fidélité. Alors avant de retrouver André Bercoff dans tous ses états et son invité Robert Ménard, on va s'écouter un titre phare du groupe Boulevard Désert en featuring avec Lounis, les grands gagnants du concours Centre Accord Sud Radio. Que de chemin parcouru pour Louis et Lorraine, le duo gagnant du Finistère, qui n'ont pas fini de faire parler d'eux, j'en suis sûre. Voici Bruxelles sur Sud Radio.
Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi mielleuse que je répugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles.
Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. J'aurais le compliment facile, je serais l'homme fort et le docile.
dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. S'il était celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. C'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plante, juste comme ça pour le bonheur. Je nous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Bruxelles dans le meilleur de Sud Radio, le plus gros succès de Boulevard Désert en duo avec les gagnants du concours Centre Accord Sud Radio, l'UNIS, et deuxième extrait de l'album des plus grands titres de Boulevard Désert sorti en février dernier. On poursuit maintenant avec André Bercoff dans tous ses états. L'animateur recevait jeudi Robert Ménard dans une tirade publiée aux éditions Nouvelle Librairie. Le maire de Béziers s'inquiète de l'absence d'un candidat qui incarnerait, je cite, une droite audacieuse, pas rétrograde, mal élevée, qui ne manque pas de panache et qui sache nous parler de la France. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Alors, thérapie de choc, Robert Ménard. D'abord, on est toujours heureux de vous recevoir parce qu'au moins avec vous, on ne s'ennuie pas. En général, j'essaie de ne pas recevoir des gens avec qui on s'ennuie. Mais enfin, on n'est jamais sûr. Avec vous, bon, je suis quand même un peu rassuré. En revanche, thérapie de choc, oui, mais avec qui et comment? Parce que j'ai lu le livre et vous, ce pamphlet là, qui est court, mais qui est très intéressant, qui est non seulement bien écrit, mais qui veut aller au scalpel, qui dit « Attendez, c'est plus possible de tourner autour du pot, il faut casser le nœud gordien, casser le vase de Soissons et y aller très 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 fort par rapport, encore une fois, à 2022. » Mais alors, vous avez commencé par là en disant, et vous finissez par là, en vous disant « Oui, ok, dans un an, c'est rien un an, c'est demain, on a les élections présidentielles. » Et aujourd'hui, juste pour commencer par ça, vous dites qui sera l'homme ou la femme, enfin il faudrait quelqu'un qui que quoi, vous donnez d'ailleurs des... Vous dites la droite en ce moment est un peu en lambeau, Marine on ne sait pas, etc. Est-ce que vous êtes un peu plus avancé que lorsque vous avez écrit votre livre?
Malheureusement non, c'est toute la question, je le dis à la fin, vous y faites allusion, il nous manque l'homme ou la femme. Il nous manque ce candidat aujourd'hui qui incarnerait une droite audacieuse, pas rétrograde, une droite mal élevée, qui manque pas de culot, une droite qui manque pas de panache, qui sache nous parler de la France comme on a envie qu'on en parle, mais qui soit en même temps radicale et réaliste, qui soit en même temps, je le disais, audacieuse, mais de bon sens. C'est toutes ces qualités-là dont on a besoin. Pardon, aujourd'hui, à votre question, j'ai pas de réponse, mais je l'ai pas depuis des années. Ça fait des années que cette droite hors les murs, comme un certain nombre de gens nous ont décrit, c'est-à-dire en dehors des partis politiques, pour parler tout simplement, a le plus grand mal à se trouver un champion. Alors on a imaginé, vous savez, Marion Maréchal, mais elle l'a dit, elle le redit aujourd'hui, elle a d'autres projets, puis elle se présentera jamais contre sa tante.
Et très vite, pour leur Zemmour aujourd'hui.
Mais il y a Éric. Mais Éric, enfin, vous le connaissez, je le connais, on le connaît tous les deux depuis des années. Éric, il a un talent incroyable. C'est un débatteur hors pair. C'est un journaliste de talent. C'est un journaliste cultivé qui a une connaissance historique. Honnêtement, j'aimerais avoir le quart du talent qu'il a. Il a tout ça. Est-ce que de tout ça, on peut faire un parcours? Et un homme politique, pour parler clairement, c'est toute la question. Est-ce qu'aujourd'hui, Éric nous est plus utile, nous, je dis ce camp de cette droite-là, nous est plus utile en étant comme vous, comme je le suis de temps en temps, mais lui tous les jours, comme vous tous les jours, présent dans des chaînes d'une chaîne de télévision, CNews en l'occurrence, pour faire entendre un autre son de cloche. Est-ce qu'il est plus utile là que dans l'arène politique? C'est ces questions.
Plus
j'ai
utile
pas
comme
de réponse.
Transmetteur que comme leader politique, absolument.
Oui, pour interroger, pour mettre du poil à gratter, pour déranger.
Tout à fait. Mais alors, Robert Ménard, mais justement, est-ce que cette droite qu'on a qualifiée, d'ailleurs vous l'aviez réunie à Béziers il n'y a pas si longtemps que ça, droite hors les murs, n'est pas justement une droite hors sol. Ce qui est très frappant d'ailleurs, et on va y arriver. Est-ce qu'au fond, le vrai problème, c'est pas que ce concept de droite et de gauche, tel qu'il a été, tel qu'on l'a vécu depuis 40 ans, tel qu'il est aujourd'hui, est totalement, en fait, suranné. Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs, et vous en parlez dans votre livre d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des valeurs civiques, identitaires ou autres, qui peuvent réunir ce qu'on appelle la droite et ce qu'on appelle la gauche? Mais n'oubliez pas qu'il y a 40 ans, si vous parliez du Parti communiste, il était encore à 35% derrière Georges Marchais, ou 30%, 25%. Il est aujourd'hui au Front National ou au Rassemblement National. Donc, est-ce que tout ça n'est pas en train, et déjà depuis quelques temps, de s'effriter comme une termitière? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est en train peut-être de naître, mais on ne le voit pas?
Honnêtement, je vais essayer de répondre honnêtement, pas facilement. C'est très bien. Et non. Oui, vous avez raison. Moi, dans ma ville, je suis élu. J'ai été élu avec 70% des voix par plein de gens. On les a parce qu'il y avait des sondages qui avaient été faits avant, par plein de gens qui vivent Mélenchon, qui votent pour Mélenchon et qui
ont élu Robert Ménard.
Qui votent pour moi parce qu'au fond, il y a une partie du discours qui est commun. Une partie du discours sur la défense d'un certain nombre de choses, honnêtement, des petites gens, de ceux qu'on oublie toujours, de ceux qui sont jamais du bon côté du manche. Vous avez raison de dire qu'il y a un point commun sur un espèce de souverainisme, pour employer un mot un peu pompeux. Enfin, c'est une envie de la France. Il y a la défense de ce pays et de son outil industriel. Là-dessus, il y a des points communs. Mais je suis quand même de ceux qui continuent à penser que y a un substrat, il y a des réactions qui sont de droite et de gauche. Il y a ça qui nous différencie. Alors vous me direz, c'est un peu caricatural, parce que j'en suis conscient. Mais c'est vrai que il faudra, pour gagner une élection, il faut pas seulement plaire à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut plaire à beaucoup plus que ça.
Bien sûr.
Est-ce que Marine Le Pen est capable de réunir cette majorité de Français? Je suis de ceux qui en doutent. Mais attendez, je le dis, j'aimerais me tromper.
C'est un titre personnel, vous parlez à votre nom.
Qu'à votre nom, moi je ne suis pas dans un parti, je ne suis pas dans un clan, dans une coterie et tout, donc je parle uniquement en mon nom personnel. Je ne le crois pas. Encore que les sondages, jour après jour, ont tendance à me donner tort, puisqu'il y en a eu encore aujourd'hui qui dit qu'elle pourrait réunir
Mais Robert Ménard,
de gens.
Pour revenir à votre livre, etc., parce que vous parlez de beaucoup de choses et vous dites, voilà, c'est des choses qu'il faut faire. Vous parlez d'ailleurs des 40 ans du regroupement familial, vous parlez de naturalisation, vous parlez d'immigration, vous parlez de tout ça, on va en parler d'ailleurs en détail avec nos auditeurs, vous parlez d'ailleurs de Trump et de ce qu'a fait Trump, effectivement, et je suis de ceux, je le dis parce que je ne peux pas le cacher, qui était quand même assez... pour moi, admiratif, je le dis, dans la façon dont Trump a réglé, en tout cas, a géré ce qui se passait en Amérique, avant le Covid, bien sûr. Vous parlez de la fraude sociale et de la fraude fiscale, mais par exemple, voyez, quand vous parlez de la fraude fiscale, et vous dites vous-même, attendez, il y a aussi, on ne va pas juste protéger les riches pour protéger les pauvres, enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais est-ce que pour vous, le concept mondialiste souverainiste, pour parler de ça, je ne dis pas qu'il a remplacé gauche-droite, mais ce qui n'apparaît pas comme un paradigme, comme une ligne, peut-être plus admirable entre ceux qui veulent protéger leur identité, leur culture, sans être des passéistes, si vous voulez, et ceux qui disent, attendez, c'est fini, tout ça, c'est vieux, vive le progrès, du passé, faisons table rase, etc. etc. Est-ce qu'on n'est pas plutôt là-dedans aujourd'hui?
Oui, mais encore une fois, je ne crois pas que droite et gauche, vous avez raison, suffit à tout expliquer. Je ne crois pas que souverainiste et mondialiste suffisent à tout expliquer. Je trouve que c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous avez cité la fraude sociale et la fraude fiscale. Oui. En gros, en général, qu'est-ce qu'on a? On a une gauche qui continue à s'offusquer, à juste raison, de la fraude fiscale. Elle a raison. Mais qui ne parle pas beaucoup de la fraude sociale, parce que quand même, il ne faudrait pas montrer du doigt les gens plus pauvres qui truandent la sécurité sociale. Et à droite, vous avez des gens qui passent leur temps à juste raison, encore une fois, à dire, regardez ces types, on paye, il y a je sais pas combien de millions de cartes vitales qu'on a, vous, comme moi, dans la poche.
5 millions.
Voilà, qui sont fausses et qui sont attribuées à des gens qui n'existent pas. Mais en même temps, cette droite-là, quand vous lui parlez de la fraude fiscale, de gens qui vont à l'étranger pour payer moins d'impôts, d'un coup, comme pour une partie d'entre eux, c'est leurs copains, ils disent plus rien. Ce que je rêve, c'est quoi ? C'est qu'on arrête avec ça. Qu'on soit juste un peu de bon sens. Alors le bon sens, ça a mauvaise presse. Moi, je suis populiste. Populiste au sens...
Absolument,
c'est un beau mot. Mais enfin, attendez, on ne va pas être terrorisé par des gens... Tout à l'heure, attendez, je vous écoutais, vous vous moquez de tout un tas de gens qui accaparent un certain nombre de mots et qui les transforment. Moi, le mot populiste, c'est un joli mot. Attendez, moi, défendre le peuple, je suppose que ça ne vous choque pas. Le problème, c'est que quand tu dis que tu es populiste, tu as tout un tas de journalistes, pardon de le dire, face à deux journalistes qui te montrent... Ah ouais, on savait bien que c'est l'extrême droite, le facho et tout ça. Non, c'est des gens, moi je défends les petites gens. Et petites gens dans ma bouche, c'est pas, vous avez compris que c'est pas péjoratif. C'est ça. Et donc tous ces concepts souverainistes, mondialistes, droite, gauche, bien sûr qu'ils sont en partie vrais, mais ils sont aussi en partie faux. Oui, vous avez raison sur un certain nombre de choses que je pense et que j'explique dans ce livre. Il y a tout un tas de gens de gauche qui disent la même chose. Mais en même temps, quand on parle de l'immigration, regardez, tout à l'heure je parlais de l'électorat de Mélenchon qui n'hésite pas à voter pour moi. Dès que vous parlez de l'immigration, hop, là c'est terminé sur l'immigration. Ils redécouvrent qu'ils sont humanistes, généreux, vous savez tout ça. Et puis nous, salauds, abominables, égoïstes, et puis je sais pas quoi.
Oui, ça c'est les lignes de clivage, effectivement, qui existent.
Oui, mais elles existent tous les jours. Moi, je la vis tous les jours dans ma vie.
Ah ben, j'imagine. Non, mais c'est clair.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver André Bercoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h avec des débats toujours passionnants, vous le savez. Je vous propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de jeudi de Valérie Expert. Pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, l'animatrice et ses débatteurs sont revenus notamment sur la fermeture de l'usine Bosch de Rodez, un vrai coup dur pour le plus gros employeur privé de l'Aveyron. Écoutez.
Alors, on va commencer avec votre tour de table, avec notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Commençons peut-être avec Christine Bouillot.
Oui, alors moi, je voulais revenir sur une information que l'on a appris vendredi après-midi, mais qui était un séisme économique pour tout un département et même au-delà. C'est ce département de l'Aveyron, puisqu'on a appris que l'usine de Bosch à Rodez, hein, qui est à Aunay-le-Château, ça touche évidemment Rodez, c'est le plus gros employeur privé du département. Hein, donc, il faut bien se mesurer l'importance de l'annonce. Donc, la direction allemande a annoncé la suppression de 750 emplois sur les 1200 que compte aujourd'hui le site. Alors, pourquoi je reviens sur cette information ? Plus personne ne se faisait beaucoup d'espoir. Hein. Cette usine était dédiée à la fabrication des injecteurs pour les moteurs diesel. Et depuis 2015, depuis le Dieselgate et après les annonces successives des différentes villes qui annoncent la fin du diesel dans leur centre urbain, hein, qu'elles soient en France ou ailleurs, eh bien, on voyait lentement, mais doucement et sûrement, donc, la fabrication se réduire comme peau de chagrin, et la Covid a évidemment scellé le sort de la fabrication de ces injecteurs. Ce que je voulais dire, c'est que depuis 5 ans, un petit peu plus de 5 ans maintenant, tous les élus de tous bords, hein, c'était assez étonnant comme situation, s'étaient démenés pour pousser le propriétaire allemand, la firme Bosch, à diversifier, à changer son fusil d'épaule, à aller vers d'autres productions pour sauver ce tissu industriel dans le département. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup s'interrogent. Il va rester 500 emplois d'ici 4 ans dans cette usine. Et beaucoup se demandent si ça va suffire pour préserver le maintien total du site. Alors, on voit toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique. Les syndicats n'étaient pas contre du tout de basculer sur d'autres productions. Encore fallait-il que le propriétaire privé le décide, investissent et donnent, un nouveau cap à ce site industriel qui est en souffrance. Et c'est un vrai désastre économique, hein, pour ce département, qui est essentiellement agricole avant tout. C'est un peu comme le cas Airbus aujourd'hui. Donc on voit que tous les changements industriels aujourd'hui sont malheureusement, alors sans doute mal, mal préparé ou mal présenté, ou en tous les cas, il y a des difficultés au niveau des politiques, mais je dirais qu'il faut aussi l'aval du secteur privé, c'est-à-dire des industriels eux-mêmes, pour décider d'investir dans tel ou tel site. Donc voilà une entreprise qui me fait penser un peu à GMES, voilà, c'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec un bassin industriel qui va être fortement endommagé, et avec des hommes et des femmes au bout, et donc beaucoup de rancœur qui risque aussi d'en sortir, et donc ça, c'est effectivement dévastateur.
Oui, et puis des sujets dont on parle assez peu au niveau national, qui sont assez peu évoqués.
750 emplois, c'est colossal, hein, c'est vous énorme, rendez compte. C'est beaucoup sur un bassin de population comme celui de Rodez.
Vous savez, je pense qu'au-delà de 750, le moindre emploi en région, c'est un individu, c'est une femme, c'est un homme, c'est une famille, et cela est dramatique. Je partage complètement la désolation. On ne peut être qu'en compassion avec ses salariés. Je pense que le vrai sujet... parce qu'on n'empêchera pas, quand je dis on n'empêchera pas, vous ne pouvez pas empêcher un propriétaire de fixer tel ou tel cap de développement industriel, même si vous ne partagez pas son point de vue. En revanche, là où il nous faut véritablement travailler, c'est sur l'attractivité de nos régions, comment aller chercher de nouvelles industries, comment développer ce qui existe, etc. C'est véritablement être dans l'anticipation, et c'est là où, me semble-t-il, le secteur privé et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, c'est vraiment sur l'anticipation, à plus ou moins 3 ans en permanence, être en anticipation.
Je suis d'accord sur l'attractivité, tout à fait. Simplement, je pense que beaucoup d'efforts sont faits dans les régions pour être très attractives, notamment dans l'Aveyron, si je ne me trompe pas, justement, il y a eu encore récemment un reportage là-dessus où le Conseil général, enfin le département avait fait venir des gens et avait fait toute une journée, plusieurs journées. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est les subventions qui sont versées. C'est-à-dire que pour cause d'attractivité, on verse des subventions.
C'est pas une bonne politique. On engrange
l'argent et ensuite on délocalise, on ferme. Et on ne demande pas les sous en retour. Alors moi, je pense que là, il faudrait être beaucoup, beaucoup plus ferme. Parce que ce sont des voyous, d'une certaine manière. Certes, le propriétaire peut faire ce qu'il veut. Mais par contre, s'il a bénéficié de subventions.
Lorsque je parlais d'attractivité, je ne parlais pas simplement. Je ne disais pas sur le plan fiscal. Parce qu'effectivement, sur le plan fiscal, il y a des tours de passe. Passe et c'est complètement inacceptable. En revanche, c'est vrai en termes de développement industriel, c'est là où il faut arriver à trouver la possibilité de créer de vrais bassins industriels en fonction des spécificités de telle ou de telle région.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi dans le 10h midi. On va revenir dans quelques minutes, promis, avec la chronique de Cédric Cizère qui a répondu comme d'habitude en humour à vos messages. Et c'est sur le répondeur de Sud Radio. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, c'est un plaisir de vous accompagner chaque week-end. Et avant de retrouver la chronique de Cédric Cizère, on va s'écouter un titre de Phil Collins en featuring avec le chanteur du groupe Earth, Wind & Fire, Philippe Bailey. Numéro 1 dans plusieurs pays, ce titre a été nommé aux Grammy Awards en 1986 et s'est classé à la 42e position du fameux top 100 du magazine Rolling Stone quand même. Voici Easy Lover.
She's the kind of girl.
Bailey. Allez, on va terminer en humour avec la chronique de Cédric Cizère. Mercredi, il a répondu comme toujours à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Et il en a profité pour faire un quiz à nos animateurs sur les peurs plutôt étonnantes des Français. On l'écoute.
Et Cédric Cizère qui est avec nous ce matin et qui fait genre, on va gagner.
On va gagner, mais c'est bonjour, le match Cédric. Le plus... Bonjour mes chers compatriotes. Oui. Le match le plus important, j'attends que ça depuis des jours et des jours, c'est quoi? C'est Marseille contre Rennes, bien sûr, ce soir.
Bien sûr.
Ça, le plus important. Le reste, on s'en fout complètement. Voilà, c'est fait. Quoique le Paris Saint-Germain est capable de se prendre une remontada. Ils sont tellement capables.
Oh non,
de tout.
Bah, attends.
Ils sont capables.
Alors, il faudrait qu'ils perdent 4-0 oui. ou 5-1. C'est ça.
Ouais. C'est faisable. Ouais. Franchement, tout peut arriver. Je pense que les Parisiens, ils ont quand même 50-50.
Non, perdre 5-1, c'est l'OM. Ça,
c'est vrai, c'est vrai.
Alors,
on se souvient.
On le répète pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute avec nous ce matin, parce qu'on a fait entendre, on le fera de nouveau tout à l'heure, les pétards. Hein, c'est-à-dire devant. Oui. L'hôtel des joueurs de Barcelone, oui. cette nuit, près de la Tour
la
Eiffel.
La revanche.
Oui, bah, ils ont fait péter. Voilà, voilà. Et ça, c'est vrai. Hein,
c'est vrai.
Et moi, j'ai passé
la nuit
à 6h.
Moi, j'ai passé la nuit à faire ça chez chaque footballeur parisien. Cette nuit.
D'accord.
J'étais voilà, à chaque pétard. Mais bon, ça n'a pas trop marché. On verra ce soir ce qui se passera. Bon, j'ai envie de commencer avec un quiz pour vous.
Ouais.
Allez, en condition.
Attention. Selon vous, un Français sur trois est paniqué à l'idée de ne plus avoir de batterie sur son téléphone, de ne jamais se marier avec la personne qu'il aime, ou de ne jamais divorcer de la personne qu'il aimait mais qu'il ne peut plus blairer.
La une.
La une, avoir de batterie de téléphone.
Réponse A, un Français sur trois est paniqué à l'idée de ne plus avoir de batterie sur son téléphone.
Ah, pour rappeler justement sa femme.
Exactement, la réponse C, c'était bien sûr trois Français sur trois qui veulent divorcer parce qu'ils ne peuvent plus blairer. Alors, c'est pas la même chose. Alors, vous avez eu ce chiffre, hein, y a la peur de rater un appel ou un message, de ne plus pouvoir utiliser le GPS, ou pire, de ne plus pouvoir partager sa vie sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, Patrick, vous êtes tellement accro, si je vous prive de TikTok une matinée, vous faites la pire tentative de suicide possible, écoutez Skyrock pendant 5 minutes.
Ouais.
Ça, pour vous, ça serait dramatique.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Alors, une auditrice qui est morte de trouille à l'idée de ne plus avoir de batterie témoigne pour nous.
Bonjour Cédric, c'est Alice, j'ai 28 ans et j'habite près de la frontière belge, à Biarritz.
Ouais.
Ma grande phobie dans la vie, c'est de ne plus avoir de batterie sur mon téléphone. Ouais. C'est pour ça que je viens d'acheter un iPhone 12 Max Pro 64Go pour seulement 1 600 €.
Ouais.
Alors avant, j'avais mon iPhone 11. Hein, la batterie était tellement pourrie que mon téléphone s'éteignait au bout de 10 secondes d'appel.
Ah.
Alors là, avec le nouveau, vous voyez, je vous parle depuis 20 secondes et je suis vraiment contente parce que la batterie...
La batterie tient très bien, manifestement.
Oui.
On voit que c'est
très,
l'iPhone 12. Ben voilà, on ne connaîtra jamais la fin. Je rappelle que l'iPhone 12, c'est pour 12 minutes d'autonomie.
Ah oui, c'est ça.
Ouais, pour ceux qui l'ont.
Ça aurait pu être 12 secondes. On est 12 minutes.
Oh, ils y ont réfléchi. J'ai acheté un iPhone sur le Bon Coin et j'ai réussi à l'utiliser pendant plus de 2 heures sans le recharger. C'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était une contrefaçon. C'était pas un vrai iPhone. C'est pas possible. Alors, quand tu pars en vacances, oui, un jour, on repartira en vacances, j'espère. T'as une valise avec tes vêtements, tes produits d'hygiène et une valise avec que tes chargeurs maintenant. Vous avez vu, on a des chargeurs de téléphone, chargeurs d'écouteurs, chargeurs de montres connectées, chargeurs de brosses à dents, chargeurs de consoles de jeux et bien sûr mon chargeur de voiture pour faire plaisir
bien
à Anne
entendu.
Hidalgo puisque j'ai une voiture électrique depuis hier. Et pour pouvoir utiliser leur téléphone quand ils sortent, vous savez, il y a ceux qui rechargent jusqu'au dernier moment ou il y a aussi la solution de la batterie externe. Vous n'avez pas de batterie externe, je vois vous.
Ouais.
C'est magnifique parce qu'on achète 1 500 € un téléphone pour qu'il soit le plus fin possible. Et on rajoute une énorme batterie externe qui fait la taille de la Bible. Et
c'est ça,
je ne comprends pas ce système-là, mais bon. Et si je vous dis 2A, 2B et 74, ça vous évoque quoi? Je pose beaucoup de questions ce matin.
2A, 2B.
2A, 2B, non pas les piles, et 74. C'est un rapport avec les voitures, justement.
Oui.
Ce sont les plaques d'immatriculation les plus demandées par les automobilistes. 2A, 2B, 74. Donc c'est la Haute-Corse, la Corse du Sud et... La Haute-Savoie.
Et la Haute-Savoie.
La Haute-Savoie. Alors, est-ce que vous voulez savoir pourquoi la Haute-Savoie est très demandée?
Non.
J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout.
Ah bah.
C'est le plus grand
mystère. Merci pour cette info fascinante.
Je travaille beaucoup. Mais c'est le plus grand mystère de l'univers avec les femmes pour moi. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent en Corse et donc qui préfèrent s'immatriculer 2A, 2B pour se faire passer pour des locaux. Vous voyez, c'est mieux.
C'est
voilà, pour garder leur voiture tranquille. Et le problème, c'est qu'on les repère tout de suite, les gens du continent, parce que les seuls qui roulent à 150 à l'heure dans le maquis, c'est pas les gens du continent. Enfin, vous voyez, c'est pas normal. Et alors, un habitant de l'île de Beauté a voulu donner son avis sur les plaques d'immatriculation.
Ayo, moi c'est Doumé de Porto Vecchio.
Ah
voilà, je voulais vous dire à vous les continentaux d'arrêter d'immatriculer vos voitures avec des plaques corses pour passer pour les mafieux.
Ah.
En Corse, on travaille pas tous pour la mafia. Non, moi par exemple, je suis chirurgien plastique. Hein, oh. Eh oui, j'ai plastiqué 2837 paires de seins.
1273 paires de fesses. Ouais. J'ai aussi plastiqué 586 maisons en bord de mer.
C'est quoi ce cliché d'Oum? Non, c'est pas possible. Alors, les plaques d'immatriculation les moins demandées.
J'embrasse les Corses qu'on aime beaucoup.
Et bien sûr, j'habite en Corse moi aussi. Les plaques d'immatriculation les moins demandées sont la Mayenne et la Sainte-Saint-Denis. Bon, la Sainte-Saint-Denis, c'est normal, quand t'achètes une bagnole, le temps que tu reçoives ta plaque, tu t'es déjà fait piquer ta voiture. Non, ça ne sert à rien. Pour moi, les plaques d'immatriculation n'ont été inventées que pour une chose, souvenez-vous, occuper les enfants pendant les longs trajets sur l'autoroute. Vous vous rappelez de ce jeu? On regardait les plaques et on devinait le département. Ouais. C'est grâce à ça que je suis aussi fort en géographie aujourd'hui.
Oui, on voit ça.
Vous le voyez tous les matins.
60.
Alors, je ne sais pas du tout.
L'Oise.
L'Oise, mais comment vous voyez connaître l'Oise?
Non, mais parce que le 60 est beaucoup donné, parce qu'il y a beaucoup de loueurs de voitures qui se sont immatriculés là-bas.
Vous voyez, on apprend des choses dans cette chronique. C'est ça qui me fait plaisir. Alors maintenant, pendant les trajets, les enfants, ils font quoi? Ils sont sur Disney+, Netflix et la chaîne parlementaire. Et mon fils, du coup, il confond Patibulaire et Gérard Larcher. C'est un peu compliqué. Et vous devez être étonné de ne pas voir les Bouches-du-Rhône dans le top 10 des immatriculations.
C'est étonnant.
Alors, c'est normal, chaque Marseillais a 5 plaques d'immatriculation.
Ah, et ils ont combien de voitures?
Une seule. Ils changent en fait de plaque, ils ont 5 permis aussi, c'est la même chose. Allez, il est temps de finir.
On va faire des amis à Marseille.
Beaucoup d'amis, mais je suis de là-bas, donc j'ai le droit, j'ai le droit. Et il est temps de finir avec le chanteur qui vend le plus actuellement. Vous savez qui c'est? C'est lui. Si tu vois une plaque 9 de 600 chevaux, Patrick, il kiffe, ça y est là. Regardez.
Ouais.
C'est Booba. C'est
Booba. Ah, bah Booba, bien sûr, qui est sorti.
Ultra, son album Vendredi qui cartonne, il en vend à l'appel. Je sais que Philippe Bilger n'écoute que ça en ce moment, sur son iPod Nano.
Il a écrit une chanson d'ailleurs pour Booba.
Pour Philippe Bilger Ah, c'est vrai, je ne savais pas.
Pour Booba, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Bien sûr.
Écoutez, on apprend tellement de choses.
On ne présente pas, on n'est pas le 1er avril.
Il écrit pour Booba des chansons formidables. On verra, on regardera, on écoutera ça lundi, alors j'espère. Alors, il l'a déjà dit ici, Jean Castex est un immense fan de Booba. Et François Hollande aussi a déclaré écouter Booba chez notre ami Samuel Etienne.
Mais bien sûr.
Je vous jure que c'est vrai.
Il
s'adresse au jeune François Hollande et il dit j'écoute Booba.
Oui, bien sûr.
Il va pas dire Mireille Mathieu.
Bien sûr, dans la
Il a dit Babou d'ailleurs.
Babou.
C'était bien préparé au niveau des fiches. Hein.
C'était très bien, il était très fort. Et Jean Castex est fan de Joe Dassin et Booba. Et bien il a voulu féliciter pour ses bons chiffres le rappeur qu'on appelle le duc de Boulogne.
Française, Français, le gouvernement tient à féliciter Booba pour les chiffres incroyables de son nouveau 33 tours.
Ah oui, d'accord.
Alors, pour lui rendre hommage, je terminerai par une de ses citations.
Oula.
Sur ce, nique ta mère, bonne journée.
C'est joli.
Je crois qu'il a pris la plus jolie phrase.
Franchement, c'était très difficile. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé pour trouver la seule phrase qui pouvait passer le matin à
8h40. Et donc, c'est Booba. Hein,
c'est Booba.
Et Jean Castex sera sur Twitch. Sur le réseau jeune, dimanche, avec Samuel Etienne. Non, mais décidément,
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Cédric Cizère, que vous pouvez retrouver du lundi au mercredi à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Minibus. Merci d'avoir été avec nous. J'aurai le plaisir, bien sûr, de vous retrouver le week-end prochain. Soyez au rendez-vous. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et excellent week-end à tous à l'écoute de Sud Radio.